Vous êtes sur Europe 1, il est 22h. C'est l'heure du journal, Isabelle Millet.
Les élèves ont quand même eu une année extrêmement compliquée et que donc leur préparation n'a pas pu se faire complètement dans les conditions habituelles et donc leur évaluation non plus.
Et cette année 2020 restera décidément exceptionnelle à bien des titres. Plus de 91% des candidats ont eu leur bac du premier coup. C'est un record historique. Au boulot, à peine nommés les nouveaux ministres déjà sur le terrain, notamment Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, qui s'est rendu ce soir à la prison de Fresnes.
Le garde des Sceaux est préoccupé par la liberté, par les conditions de détention, par les conditions de travail du personnel pénitentiaire.
On reviendra dans ce journal sur le message adressé par Emmanuel Macron à ses nouveaux ministres, sur les propos apaisants de Gérald Darmanin à l'intention des forces de l'ordre, le ministre de l'Intérieur qui pour cette première journée a subi la bronca des féministes. On évoquera aussi les ambitions vertes de Barbara Pompili. Nous serons également à Bayonne où s'est rendu ce soir le nouveau ministre des Transports après l'agression ultra-violente d'un chauffeur de bus. Et puis tout un symbole, le magasin Tati dans le quartier de Barbès à Paris ferme ses portes, victime lui aussi de la crise.
Barbès sans Tati, c'est pareil qu'en Paris sans la Tour Eiffel. C'est un truc, c'est la même histoire en fait. C'est dommage quand même que ça va fermer.
La Bourse de Paris a terminé ce soir en baisse de 0,74% à 5043 points. Après une belle journée estivale, une nouvelle perturbation va toucher le nord de la France demain, de la Normandie jusqu'au Hauts-de-France. Ciel couvert et petite pluie. Des nuages devraient également s'imposer sur la Bretagne, la région parisienne et sur le nord-est. Plus au sud, rien à signaler. Ce sera encore une très belle journée. Ne manquez pas les prévisions détaillées d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. Et puis vous aimez lire ? Ça tombe bien, nous aussi. Et après le journal, on partira à Bordeaux avec Stéphane Place et les bons conseils lecture de la librairie Mola pour cet été.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Une année compliquée, mais des notes au sommet, record donc pour le baccalauréat 2020. Un cru très particulier, vous le savez, puisque jugé en contrôle continu. Bonsoir Virginie Salmen.
Bonsoir.
En tout cas Virginie, c'est du jamais vu. Hein.
Oui, 91,5%, c'est le taux de réussite le plus haut jamais enregistré. Plus 13,7% par rapport à 2019. Le précédent record, c'était en 2016, 88,6%. Vous voyez qu'on est bien plus haut. Les chiffres montent plus haut encore pour les candidat au bac général. C'est une hausse de 15 points à 94,3% de réussite. Mais ça s'explique, selon le numéro 2 du ministère de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, d'abord par une année particulière marquée par des grèves, puis deux mois de confinement, une évaluation, vous le disiez, en contrôle continu et un effet statistique.
Lorsque les élèves passent les épreuves terminales du baccalauréat, ils jouent entre guillemets tout sur une semaine. Et donc statistiquement, vous avez toujours 3, 4, 5% et voire plus même des élèves qui ratent une ou plusieurs épreuves parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils sont malades. Or cet effet-là, il a été forcément neutralisé pour l'essentiel. Bah, les élèves qui habituellement étaient à l'oral de rattrapage parce qu'ils avaient raté une ou deux épreuves, bah, cette année, ils n'ont pas été placés dans cette situation.
Voilà pour l'explication du directeur général de l'enseignement scolaire. Du côté des parents d'élèves de la PEP, on est surtout inquiet pour l'an prochain, comme nous le dit la porte-parole, Cécile Frattaroli.
C'est pas tant le bac, et c'est, j'entends, on dit le bac est bradé, c'est pas un vrai bac. De toute façon, c'est pas un vrai bac, ils n'ont pas passé l'examen, c'était pas prévu comme ça, donc c'est un moment particulier, c'est un bac Covid-19. C'est juste, que va-t-il se passer l'année prochaine pour ceux qui arrivent dans le supérieur? Il y en aura beaucoup, il va falloir les accompagner, il va falloir éviter d'avoir trop d'échecs, parce que c'est dommage, quoi. Voilà, c'est tout.
C'est donc la crainte d'un engorgement en première année de fac. Merci beaucoup Virginie Salmen du service Société d'Europe 1. Je vous rappelle donc ce chiffre, 91,5% de taux de réussite avant le rattrapage. Et on leur dit bravo hein, quand même ce soir à nos bacheliers. Le message d'Emmanuel Macron justement à ses nouveaux bacheliers, message sur le réseau social TikTok. Bravo, profitez, fêtez le bac et après, bon courage. Votre génération a devant elle un monde à inventer plus fort, plus solidaire, plus écologique. Je ferai tout pour que ce monde soit meilleur, dit le président. Mais ce n'est pas moi qui déciderai de votre avenir, ce sera vous. À peine nommé, déjà au boulot, pas de répit pour les nouveaux ministres qui, après les traditionnelles passations de pouvoir, se sont donc retrouvés cet après-midi pour leur tout premier conseil des ministres autour d'Emmanuel Macron et de Jean Castex. Adrien Beck, sait-on ce que le chef de l'État a dit à sa nouvelle équipe ?
Oui, ou plutôt, du moins ce qui en a été rapporté par le nouveau porte-parole du gouvernement. Au travail, a dit Emmanuel Macron, avant de saluer un gouvernement de dépassement et de combat. Le contraire aurait été surprenant. Un gouvernement, en tout cas pour la fin du quinquennat, écoutez Gabriel Attal.
Nous allons amorcer un changement de méthode profond. C'est un gouvernement de rassemblement, c'est un gouvernement des 600 jours, puisqu'il reste un peu moins de 2 ans avant la fin de ce quinquennat et que jusqu'au dernier jour, nous serons pleinement à notre tâche et nous travaillerons d'arrache-pied, avec détermination, avec conviction et avec force.
Voilà un conseil des ministres aux airs malgré tout de rentrée des classes. À leur arrivée sur le perron, c'est Roselyne Bachelot qui l'a emporté au petit jeu des flashs qui crépitent, lunettes de soleil et masque sur le nez pour la nouvelle ministre de la Culture, suivie de près par Éric Dupond-Moretti, arrivé avec son Marocain de garde des Sceaux sous le bras. Tout cela, c'était après l'irruption de quelques fémènes dans la rue devant l'Élysée qui criaient « remaniement sexiste, réponse extrémiste », des activistes rapidement évacués. Un conseil des ministres en tout cas qui aura duré un peu plus d'une heure et demie et qui ne s'est pas conclu par la traditionnelle photo de famille de la nouvelle équipe, car on attend toujours la nomination de plusieurs secrétaires d'État.
Compte rendu signé Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Certains ministres, en tout cas, n'ont pas attendu ce premier conseil pour se mettre au travail. À l'image de Gérald Darmanin, nouveau ministre de l'Intérieur, qui, dès la passation de pouvoir terminé, s'est rendu au commissariat des Mureaux en banlieue parisienne, conscient d'être attendu au tournant par des forces de l'ordre très remontées, échaudées, qui s'estiment lâchées. Écoutez ce que leur a dit leur nouveau ministre.
Je veux dire aux forces de l'ordre que comme élu de terrain, je connais leurs difficultés du quotidien dans l'exercice de leur mission, les difficultés aussi face aux attaques de l'autorité, cette attaque de l'autorité qui chaque jour gangrène la République. Que les forces de l'ordre soient assurées de mon soutien total et de la profonde reconnaissance du gouvernement, qui ne doute jamais du fait que je serai toujours le premier d'entre eux. Que je défendrai tout ce qui peut être défendu, que je soutiendrai tout ce qui peut être soutenu, et que la France et les Français attendent de nous, ici, au ministère de l'Intérieur, que nous soyons un refuge et un exemple.
Gérald Darmanin qui recevra les syndicats de policiers d'ici jeudi et qui ce soir est à Amiens, est à Agen, pardon, où ce week-end une jeune femme gendarme a été tuée, renversée par un chauffard. Jean-Gabriel Bourgeois, vous étiez place Beauvau ce matin pour la passation de pouvoir avec Christophe Castaner et il y a eu de l'agitation à l'extérieur, une manifestation de militantes féministes qui voulaient protester contre la nomination de Gérald Darmanin qui, on le rappelle, est toujours visée par une enquête pour viol.
Oui, la scène se déroule à proximité des grilles de l'hôtel de Beauvau, quelques minutes avant l'arrivée de Gérald Darmanin.
Darmanin, violeur est un complice ! Darmanin, violeur est un complice !
Une vingtaine de militantes féministes, masques sur le visage, sont repoussées par des policiers. Un peu plus tard, à l'entrée du Conseil des ministres, des fémènes enjambent les barrières de sécurité et devant la porte de l'Élysée, elles lancent « remaniement sexiste, réponse extrémiste ». Au même moment, place de la Madeleine, un rassemblement est organisé pour dénoncer un remaniement de la honte dans le viseur des féministes Gérald Darmanin, mais aussi Éric Dupond-Moretti à qui elle reproche des prises de position contre le mouvement MeToo, une action mise en scène de manière spectaculaire.
Deux hommes qui jouaient le rôle de Darmanin et de Éric Dupond-Moretti ont déposé un cercueil qui représentait cette grande cause du quinquennat, qui est la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et des femmes sont venues déposer des roses sur ce cercueil.
Interrogé à l'issue du Conseil des ministres sur ses actions coup de poing, le porte-parole Gabriel Attal a balayé la question. « Je ne crois pas que le gouvernement porte moins haut la cause de l'égalité femmes-hommes », a-t-il dit. Vous le disiez, Gérald Darmanin est toujours visé par une information judiciaire pour viol. La Cour d'appel de Paris a demandé la reprise de l'enquête le mois dernier.
Jean-Gabriel Bourgeois du service politique d'Europe 1. Autre nomination qui fait réagir, celle d'Éric Dupond-Moretti au ministère de la Justice. Et il n'y a pas que les féministes qui s'insurgent, également les magistrats. Certains dès hier soir parlaient carrément de déclaration de guerre. Alors c'est vrai que le ténor du barreau a été souvent virulent contre le monde judiciaire, mais ce matin il a choisi de jouer l'apaisement. Et ce soir, Éric Dupond-Moretti s'est rendu à la prison de Fresnes, en banlieue parisienne, à la rencontre des personnels pénitentiaires et des détenus.
Le garde des Sceaux est préoccupé par la liberté, par les conditions de détention, par les conditions de travail du personnel pénitentiaire. Il y a eu une rencontre extrêmement intéressante entre des détenus et les membres du personnel pénitentiaire. J'étais le témoin passif mais très attentif. Que disait-il ? La même chose. Moins de détenus, un peu moins d'inconfort et de meilleures conditions de travail pour le personnel pénitentiaire. Au fond, on peut penser que leur discours est irréductible, totalement antinomique, pas du tout. Ils disent la même chose et c'est à méditer. Il y a évidemment des conditions de détention qui restent très difficiles. Tous ceux qui pensent que la prison, c'est le 3 étoiles, se trompent complètement et ils devraient se taire. On est dans des taux d'occupation ici qui sont historiquement bas. C'est sans doute le chemin qu'il faut poursuivre. En tous les cas, c'est ma conviction.
Maître Éric Dupond-Moretti, le nouveau garde des Sceaux, ce soir à la prison de Fresnes. Il était au micro Europe 1 de Justin Morin. Elle est désormais la numéro 2 du gouvernement et elle est aussi attendue au tournant. Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, qui prend ses fonctions avec un message clair. Le plan de relance de l'économie prévu pour la rentrée devra être teinté de vert.
Le gouvernement travaillera dans les prochaines semaines sur un plan de relance économique dont l'écologie devra être un moteur essentiel. Cela ne se concrétisera que si l'écologie franchit les lourdes portes de cette cour, que si l'écologie devient aussi l'affaire de tous les membres de ce gouvernement. C'est la volonté et la conviction du Premier ministre et du Président de la République. Et mon rôle sera d'y contribuer et vous pouvez compter sur ma contribution active. Et je sais que je ne serai pas la seule écologiste autour de la table du Conseil des ministres.
Voilà Barbara Pompili, la nouvelle ministre de la Transition écologique au micro Europe 1 de Claudia Bertram. Notez que le Ségur de la Santé lui a repris ce soir après une pause pour cause de remaniement. Avec cette annonce, l'enveloppe pour les salaires hors médecins est portée à 7,5 milliards d'euros. Des discussions sur la réforme des retraites sont également prévues. Les partenaires sociaux seront reçus à Matignon à partir de demain soir. C'est désormais Elisabeth Borne au ministère du Travail qui a la charge de porter cette future réforme. Autre ministre sur le terrain ce soir, celui des transports, qui s'est rendu à Bayonne, où le chauffeur de bus roué de coups dimanche soir est toujours entre la vie et la mort. Les conducteurs de la ville ont exercé leur droit de retrait. Stéphane Place, vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans la région. Stéphane, ces chauffeurs très éprouvés ont donc reçu la visite de Jean-Baptiste Djebari.
Oui, c'est ici à l'atelier de la société Chronoplus que le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebari, a rencontré ce soir durant un peu plus d'une heure les représentants des salariés, les collègues de ce conducteur agressé ici à Bayonne, qui se trouve toujours dans un état qualifié de critique par le procureur Marc Marié, qui a fait un point sur le déroulement des faits, tels en tout cas qu'ils ont pu être établis par les enquêteurs à ce stade.
À l'arrêt de la gare de Bayonne, trois individus, dont un accompagné d'un chien, ont pris place à bord du trambus à hauteur de l'arrêt Balichon. Elles ont été rejointes par un quatrième individu. Le chauffeur se serait alors rendu auprès de ce dernier afin de contrôler son titre de transport. Le chauffeur aurait demandé aux quatre personnes de placer leur masque sur leur visage. Le chauffeur aurait alors fait l'objet d'insultes et d'une bousculade au cours de laquelle il a été poussé à l'extérieur du véhicule. Deux des quatre individus ont alors porté de violents coups dirigés sur le haut du corps de la victime et notamment à hauteur de sa tête, provoquant ainsi de graves blessures.
Un drame qui suscite ici ce soir à Bayonne une émotion toujours particulièrement vive. Une marche blanche est organisée demain à l'initiative de la famille.
Stéphane Place à Bayonne pour Europe 1. Trois policiers condamnés en appel pour l'arrestation illégale et violente d'un réfugié afghan à Marseille. Des peines allant de 2 ans ferme à 6 mois avec sursis. Les deux policiers condamnés aux peines les plus lourdes comparaissaient détenus, mais ils n'ont pas été maintenus en détention.
Europe 1, le journal de la nuit. Isabelle Millet.
Il est 22h13, merci d'écouter Europe 1, c'est la suite de votre journal. Et il se moquait du coronavirus. Le président brésilien Jair Bolsonaro aimait s'afficher sans masque dans des bains de foule. Eh bien, il a annoncé aujourd'hui à la télé, Pauline Jacquot, il est positif.
Oui, déjà hier, il commençait à prévenir les médias. Il disait avoir de la fièvre, des douleurs musculaires. Et chose très inhabituelle pour le président brésilien, devant les caméras, il portait un masque. Hier soir, il disait avoir fait une radio des poumons. Il s'est fait tester et a convoqué aujourd'hui les journalistes pour leur annoncer le résultat.
Et finalement, je suis positif au Covid. J'ai commencé à être fatigué avec des courbatures, 38 de fièvre. Le médecin de la présidence m'a donné de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine. Depuis, ça va mieux. Je me sens parfaitement bien.
Jair Bolsonaro n'a jamais pris au sérieux l'épidémie dans son pays, qui a déjà fait plus de 65 000 morts. Il a toujours critiqué les mesures de confinement des autres États. Ce week-end, il publiait encore des photos de lui, sans masque, sur les réseaux sociaux. Écoutez ce que disait le président brésilien fin mars à la télévision.
En ce qui me concerne, vu mon passé de sportif, je n'aurais pas à m'inquiéter si jamais j'étais contaminé par le virus. Je ne ressentirais rien d'autre qu'un petit coup de froid, comme si je n'étais pas dans mon assiette.
L'OMS a très vite réagi, souhaitant à Jair Bolsonaro un rapide rétablissement. prince ou pauvre, a tenu à rappeler le responsable des urgences sanitaires. Nous sommes tous également vulnérables face au virus.
Les précisions de Pauline Jacquot pour Europe 1, une pandémie qui n'a pas encore dit son dernier mot. Multiplication de cas aux États-Unis, mais aussi en Australie. Face à une recrudescence de cas à Melbourne, les 5 millions d'habitants de la ville devront rester confinés au moins pour 6 semaines à partir de ce soir. Et puis l'administration de Donald Trump confirme à l'instant que le président américain a retiré officiellement les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé qu'il accuse d'avoir mal géré cette pandémie. À Paris, c'est une page qui se tourne dans le quartier populaire de Barbès. Le célèbre magasin Tati va fermer ses portes. Les grèves, les gilets jaunes et puis le confinement ont eu raison de l'enseigne déjà en difficulté depuis plusieurs années. Romain Noquet s'est rendu sur place au pied de la butte Montmartre. C'est la fin d'une institution ouverte en 1948.
72 ans que l'enseigne Rose Vichy égaye le quartier. Mais désormais sur les vitrines, des affiches annoncent la nouvelle. Moins 50% sur tout le textile avant liquidation totale. Un magasin rempli de souvenirs pour Badir, venu ici il y a 30 ans dépenser son tout premier salaire.
Bah, les premiers meubles que j'ai achetés dans ma vie, c'était à Tati en fait, c'est pour ça. C'est une belle époque en fait. Barbès sans Tati, c'est pareil qu'en Paris sans la Tour Eiffel. C'est un truc, c'est la même histoire en fait. C'est dommage quand même que ça va fermer.
Un dénouement qui ne surprend pas les clients, peu nombreux dans les allées de l'immense boutique. Depuis octobre 2019, les ventes ont baissé de 60%. Michel ressort d'ailleurs les mains vides.
Ah oui, c'est plus comme avant, ça a baissé. Moi, je viens depuis qu'il a ouvert en 1960 ou je ne sais plus quelle année alors, puisque je suis du quartier. Enfin, c'était que des dégriffés. C'est vrai qu'il y a un peu de tout maintenant. Les matières sont plus aussi belles. Mais bon, en cherchant, on arrive toujours à trouver son bonheur.
À la sortie du magasin, les employés évitent notre micro. Sous le choc, 34 salariés qui attendent d'être fixés sur leur sort. On va se battre, préviennent les syndicats, même si le licenciement reste l'option la plus probable.
Le reportage de Roman Hockey. Et on jette un œil tout de suite sur la météo.
Qu'importe la chaleur, vous êtes bien chez vous grâce au volet roulant Velux, fabriqué en France. Plus d'infos sur velux.fr. Velux vous présente la météo.
Avec vous, bien sûr, Anissa Haddadi. Et pour demain, Anissa, moins beau au nord qu'au sud.
Et oui, c'est à cause d'une perturbation, Isabelle, qui touche le nord de la France. Demain, de la Normandie jusqu'aux Hauts-de-France, le ciel est très couvert demain matin, avec d'ailleurs sur la Somme et le Pas-de-Calais des petites pluies dès le début de journée. En Bretagne, en région parisienne et dans le Grand Est, là, le ciel est partagé entre nuages et éclaircies, même si souvent les nuages vont gagner la partie. Les nuages sont beaucoup plus épais et beaucoup plus présents dans l'après-midi. Au sud de la Seine, eh bien là, rien à signaler. Le soleil est au rendez-vous et c'est une très belle journée estivale avec tout de même sur les Pyrénées et la Haute-Corse quelques nuages qui pourront apporter des petites gouttes uniquement sur les reliefs. Les températures matinales, elles sont stationnaires demain au nord avec 8 à 13 degrés, 11 à 16 sur la moitié sud et jusqu'à 22 degrés demain au lever du jour sur le Roussillon et la Corse. Les maximales, vous allez le sentir, elle gagne quelques degrés, 19 degrés à Lille et Cherbourg, 21 pour Brest, 23 à Quimper, 25 à Metz, 27 à Nantes, Paris et Belfort demain, 30 pour Rodez, Marseille et Limoges. Et il fait toujours très chaud dans l'extrême sud avec 32 degrés à Toulouse et 35 la maximale pour Nîmes.
La météo signée Anissa Haddadi. Et dans un instant, on ouvre un bon livre avec Stéphane Place et la librairie Mola à Bordeaux. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h19, merci de nous écouter sur Europe 1 et parce qu'on aime beaucoup les livres ici. Pour le troisième été consécutif, nous avons décidé de nous associer avec la première librairie indépendante de France, la librairie Mola à Bordeaux. Avec Stéphane Place et les 55 libraires, nous vous proposons chaque jour un coup de cœur pour un polar, un roman, un essai, une BD, de bons conseils pour votre été. Et aujourd'hui, parmi tous les ouvrages, et ils sont nombreux en cette année de commémoration, coup de projecteur sur Charles de Gaulle, un rebelle habité par l'histoire.
Les 130 ans de sa naissance, les 80 ans de l'appel du 18 juin et le 50e anniversaire de sa mort, 2020, c'est l'année de Gaulle, marquée par les hommages rendus à celui que Romain Gary désignait comme un point de référence. Et d'ailleurs, il faut bien le constater, sans être dupe sur les arrière-pensées qui animent certains, l'échiquier politique dans son ensemble loue aujourd'hui les qualités exceptionnelles du grand homme. Alors, parmi toutes les publications récentes consacrées au général, ce petit livre que signe Michel Vinoc, Charles de Gaulle, un rebelle habité par l'histoire, une centaine de pages, revenant sur deux moments fondamentaux de ce destin hors norme, 1940, la France libre, 1958, l'avènement de la Ve République, libraire chez Mola, Jean-Marc Bourlard, vous recommande cette lecture.
Charles de Gaulle a vraiment été un rebelle en fait, habité par l'histoire. Donc d'une part, par cet appel du 18 juin, parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque, de Gaulle, en fait, Vinocq nous dit très bien qu'il était très peu connu. De Gaulle, en 40, il se rend à Londres et il lance son appel à la résistance. Il désobéit et il finit par avoir l'autorité. Et deuxièmement, 1958, de Gaulle profite un petit peu de ce contexte algérien pour revenir sur le devant de la scène politique. Il va reprendre le pouvoir et il va nous donner cette nouvelle constitution.
Ni de droite, ni de gauche, pas un doctrinaire. Pour le Rassemblement, de Gaulle se situait au-dessus des partis, explique Michel Vinocq. Et dans ce livre qu'il consacre au général, l'historien insiste sur la force de caractère de ce personnage, sur l'autorité qu'il dégageait et qu'il cultivait aussi.
Dans son deuxième livre, Le fil de l'épée, il analyse ce que doit être un chef. Et il fait une sorte d'autoportrait. Naturellement, il y a une qualité que tous les chefs ou les postulants au commandement n'ont pas. C'est ce qu'on appelle l'ascendant. Ce pouvoir naturel, qu'on a ou qu'on n'a pas, ça ne s'invente pas. Mais ça se cultive par des attitudes. Et en particulier par la distance. Le refus de toute familiarité, par la tenue. Même à Colombey, quand il se balade dans le parc, ouais. Il a une cravate. Il y a chez lui, non seulement ce charisme, cet ascendant, mais cette idée de se fabriquer un personnage de légende. Et quand il est à Londres, qu'il met sur pied, avec des moyens réduits, une armée, la France combattante, eh bien, il dit que par rapport à ce vide ou à ce manque, il fallait autre chose, ben il fallait une légende.
Et Michel Vinocq rappelle que le double parcours du général de Gaulle, celui de la France libre et celui de la Ve République, se révèle sans équivalent dans l'histoire contemporaine de notre pays.
Un livre pour l'été, la chronique de Stéphane Place avec la librairie Mola à Bordeaux, à retrouver tous les jours sur Europe 1. Rendez-vous pour une autre découverte demain, même heure. Autre rendez-vous cet été sur Europe 1, ça s'appelle La Bonne Idée. Chaque jour, nous allons tirer un coup de chapeau à une initiative, à ceux qui, après cette crise, se mobilisent et innovent. Ce sera donc tous les soirs avec vous, Thierry Dagiral, et vos invités qui vous expliquent leur bonne idée. Donc.
Bonsoir Nazib Chiman.
Oui, bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
Vous avez créé Share Your Talent avec Mickaël Cabrol. C'était en plein confinement. Quelle est l'idée ? C'est quoi l'idée ?
Oui, absolument. Share Your Talent, c'est avant tout une initiative solidaire qu'on a voulu lancer, comme vous l'avez dit, effectivement, avec Mickaël Cabrol, fondateur d'Easy Recrue, afin de répondre un petit peu aux tensions actuelles du marché du travail et de permettre à des sociétés qui rencontrent des difficultés économiques fortes, de pouvoir prêter des collaborateurs à des sociétés qui ont toujours des besoins de recrutement, voire des besoins de recrutement qui s'accélèrent.
Ça pour éviter bien sûr le licenciement, le chômage partiel. C'est une plateforme fermée. Comment on peut y rentrer ?
Ouais. Donc nous sourçons en fait les demandes de la part d'entreprises, que ce soit pour des entreprises qui souhaitent recruter ou des entreprises qui souhaitent mettre à disposition des collaborateurs. Et derrière, nous leur offrons la plateforme gratuitement aujourd'hui, afin de leur permettre de pouvoir gérer l'ensemble du workflow d'échange de collaborateurs.
Et alors, ce qui est dingue, c'est que votre initiative intéresse énormément l'État, puisque vous êtes, je crois, en discussion avec le ministère de l'Économie, qui heureusement n'a pas changé.
Ouais. Oui, absolument. En fait, le ministère du Travail, comme vous l'avez très bien dit Thierry, propose et pousse les entreprises à mobiliser ce cadre réglementaire de la mise à disposition de salariés en lieu et place du chômage partiel. L'idée est de se dire, pourquoi pas permettre à des sociétés qui ont des besoins de recrutement de régler la facture de sociétés qui n'ont malheureusement pas l'utilité des collaborateurs qu'ils ont en charge aujourd'hui, au lieu d'avoir recours au chômage partiel qui reste à la charge de l'État.
Voilà, Share Your Talent, partagez vos talents, la belle idée du soir. Bravo à vous, Nazim Chiban. Merci.
Merci
beaucoup.
La bonne idée tous les soirs sur Europe 1 avec Thierry Dagiral. Dans un instant, on jettera un œil sur les unes de la presse, mais on va d'abord marquer une petite pause musicale en compagnie ce soir de Norah Jones.
Just sit and wait, don't move, just hesitate. You can hope and pray, you can moan, maybe things will change. You feel your soul get hollow. Just live without. She walks, she runs, She's crushed by thoughts and night. A man who won her rights and usually wins. But she's alive, oh, she's alive. She's alive, oh, she's alive. Screams, he shouts, the hits on the TV bow. They take the bait, they mirror waves of hate. They break down walls to free. If I should break my silent streak, will knives come out to cut my cheek? Oh, I'm alive. Yes, I'm alive.
La sublime voix de Nora Jones qui mêle les sonorités soul, jazz et folk. I'm Alive sur Europe 1. Et comme promis, on jette maintenant un œil ensemble sur les unes du lendemain. Voici ce que vous découvrirez dans vos quotidiens. Et beaucoup de vos journaux, évidemment, reviennent encore sur le remaniement. C'est mal parti, écrit Libération. Mais attention, mal avec un E à la fin. L'un est coutumier des coups de gueule contre la magistrature et un pourfendeur du mouvement MeToo. L'autre est l'objet d'une enquête pour viol. La nomination d'Éric Dupond-Moretti et de Gérald Darmanin au ministère de la Justice et de l'Intérieur suscite la polémique. Deux hommes à la une du Parisien aujourd'hui en France. Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy. Avec ce titre, il y a un petit air quand même. La nomination de proche de l'ancien président Sarkozy dans le gouvernement Castex n'est pas passée inaperçue et provoque quelques remous dans la majorité. Gouvernement, la voix du peuple pour l'opinion. Le gouvernement Castex est marqué par de fortes personnalités, on l'a vu, qui accaparent toute la lumière. Le virage écolo est passé au second plan. Un choix présidentiel ou bien la conséquence de plusieurs refus, s'interroge l'opinion. Équipe Castex, le blues des macronistes historiques, écrit quant à lui le Figaro. La quasi-disparition au sein du gouvernement des premiers soutiens du chef de l'État donne le sentiment d'un virage à droite qui trouble la majorité. Tandis que Ouest France titre sur les grands chantiers qui attendent les ministres. Et puis dans le journal La Montagne, Florence Chédotal revient elle aussi sur la nomination d'Éric Dupond-Moretti à la justice. C'est un pari un peu fou, écrit la journaliste. L'ogre tout miel lors de la passation de pouvoir aujourd'hui, réserve-t-il ses joutes verbales, ses provocations et ses volcaniques effets de manche à l'Assemblée ? Que le spectacle commence donc. L'authenticité, celle revendiquée par un Raoult ou un Bigard comme remède à la défiance. On n'est pas loin d'une vision fantasmée du peuple qui réclamerait du pain et des jeux. Et Florence Chédotal de conclure, ce sont rarement ceux qui s'agitent qui en font le plus, mais la politique est aussi un spectacle. Et il faut bien remplir les salles. Tout autre sujet, automobile, les Chinois débarquent en Europe, c'est ce qu'écrivent les Échos. Plusieurs véhicules de marque chinoise arrivent en effet sur les routes européennes, tandis que le virus court toujours, nous rappelle le journal La Croix. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. et à 22h30, tout pile sur Europe 1. Je vous souhaite une excellente soirée. Elle sera excellente forcément puisque vous êtes en compagnie d'Olivier Delacroix pour votre Libre Antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Isabelle.
Très belle émission à vous. Toujours le 39-21 pour vous joindre.
Exactement, toujours le 39-21. Pas de nouvelle nomination dans l'équipe de la Libre Antenne.
C'est très bien. Tout le monde est resté à son poste.
Exactement.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.